Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 50 ans, le 18 septembre 1970, mourait à Londres celui qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand guitariste de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone, Jimi Hendrix. Une légende du rock psychédélique qui rejoignait le Club des 27 après avoir brûlé la vie par tous les bouts. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Guédon, co-auteur avec Philippe Margotin du livre Je vous le montre, Jimi Hendrix la totale, et vu le poids du livre, je peux vous dire c'est vraiment la totale. Jean-Michel Guédon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Donc, il naît à Seattle le 27 novembre 42 dans une famille pauvre, avec une mère alcoolique qui mourra alors qu'il vient d'avoir 15 ans et d'un père qu'il ne connaîtra qu'à 2 ans, car bloqué dans une caserne de l'Oklahoma, on est en pleine guerre. Ses parents divorceront lorsqu'il aura 9 ans et son père alcoolique le battra à maintes reprises. Pas un début de vie facile.
Non, c'est un peu une vie, une enfance à la Dickens. C'est Jimi Hendrix, il est né dans une famille qui est effectivement pauvre. Son père, plutôt pas sympa, sa mère alcoolique, volage, etc. Donc ça se passe mal dans le couple. Et les enfants, il a un frère qui s'appelle Léon, qui est toujours vivant d'ailleurs. Et finalement, les parents divorcent et les deux frères sont baladés de foyer en foyer. Jimi Hendrix est chez sa tante et son oncle. Voilà. Donc, et son père, de temps en temps, vient, apparaît, puis le récupère par la suite. Mais les relations n'ont jamais été très heureuses.
Idyllique. Alors, il joue de l'harmonica à 4 ans et son père lui offre un ukulélé en le surprenant jouer de la guitare avec un balai. Ça, c'est hallucinant. Et à 15 ans, il achète une guitare $5 à un ami de son père. Et il apprend à jouer tout seul, bien pour le futur plus grand guitariste de l'histoire.
Oui, oui, oui.
Les profs de guitare vont pas être contents en nous entendant.
Non, et puis son ukulélé n'avait qu'une corde, donc il s'amusait à reproduire ce qu'il entendait à la radio. Et tout de suite, il a montré qu'il avait quelques facilités par rapport aux autres, ce qui fait qu'il était embauché dans les groupes de Seattle, puisqu'il était là-bas. Et petit à petit, sa réputation commençait à grandir, etc. Voilà.
Alors, à 19 ans, il est pris dans une affaire de vol de voiture et s'engage dans l'armée pour éviter la prison. Il fera partie de la 101e division aéroportée, une des deux divisions d'élite de l'US Army qui ont les premières sautées sur la Normandie. C'est incroyable, on n'imagine pas ça de Jimi Hendrix.
Bah oui, en fait, il était contraint forcé, c'était ça. Ou la prison. En fait, il était pris dans un vol de voiture. En fait, il disait qu'il avait été pris dans une voiture, il ne savait pas qu'il était volé. Enfin, c'est pas vraiment quelle est la vérité. Mais à Fort Campbell, où il était, effectivement, il a fait partie de l'élite. Et il en a eu vite très marre. Et il s'est blessé, heureusement, en voulant faire un saut dans un parachute. Et il a été réformé assez tôt. Enfin, il a fait quand même un petit bout d'armée. Mais c'est là qu'il a rencontré le futur bassiste de Band of Gypsies, Billy Cox.
Absolument. Alors, fin 65, il commence à jouer pour des vedettes comme Ike et Tina Turner ou encore Little Richard.
Oui, tout à fait. Alors, Ike et Tina Turner, on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Je veux dire, eux ne se souviennent pas. Hendrix, lui, disait une autre version, donc on ne sait pas trop où c'en est. Mais effectivement, il a joué avec Little Richard, les Isley Brothers, Curtis Mayfield. Enfin, il a fait beaucoup de groupes en tant que sideman.
Alors, il est américain, mais bizarrement, c'est à Londres qu'il connaît le succès, puisqu'il part au Royaume-Uni en 66, où il scotche Eric Clapton, qu'il rejoint sur scène. Clapton dira, alors Clapton, deuxième meilleur guitariste de l'histoire, dira, il a joué de la guitare avec les dents derrière la tête, allongé par terre, en faisant le grand écart et d'autres figures. C'était stupéfiant et génial musicalement, pas uniquement un vrai feu d'artifice à contempler. J'ai pris peur, car juste au moment où on commençait à trouver notre vitesse de croisière, voilà qu'arrivait un vrai génie.
Oui, alors là,
excusez-moi, Messi et Clapton sur la même scène, c'est Ronaldo et Messi dans la même équipe. C'est
ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'ils faisaient avec les dents, jouer derrière le dos, les roulades par terre, etc. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé. Il a chopé ça dans le circuit, ce qu'on appelle le Chitlin Circuit, qui est un circuit réservé aux artistes noirs sur la côte est des États-Unis. Et là-bas, tout le monde faisait ça. Donc, il avait chopé ça là-bas, mais il avait perfectionné. Et effectivement, quand il a joué pour la première fois à Londres devant Clapton. Clapton s'est carrément éclipsé sur le bord de la scène tellement il était estomaqué. Voilà.
C'est hallucinant. En octobre 66, il débarque en France avec l'aide d'un certain Johnny Hallyday à la tête de son groupe, The Jimi Hendrix Experience. Et c'est le succès puisqu'en novembre 66, un mois plus tard, le groupe se produit au Bag O'Neill's à Londres devant un parterre de musiciens tels que Clapton, on en reparle, Lennon et McCartney qui sont encore des stars avec les Beatles, Brian Jones, Mick Jagger... beau public.
Beau public. Il faut savoir que les Beatles, McCartney en l'occurrence, était devenu red dingue de Jimi Hendrix et il a aidé Jimmy à s'imposer aux États-Unis justement en faisant les premiers festivals là-bas.
Et en décembre 66, c'est la consécration avec l'entrée dans les guides parades, les charts là-bas de Hey Joe. On écoute un extrait. Hey Joe, where you going with that? Et pourtant, Hey Joe, c'est pas une chanson de lui.
Non, c'était une chanson, on sait pas très bien à qui elle appartient, mais elle était reprise, la version en tout cas dont s'est inspiré Jimi Hendrix, c'est de Tim Rose, un musicien folk voilà, qui avait enregistré un disque et qui a permis au futur manager de Hendrix, qui s'appelle Chas Chandler, qui était le bassiste des Animals, de le remarquer parce qu'il avait entendu ce morceau, il dit « il faut que je trouve quelqu'un absolument pour interpréter ça ». Il rentre dans un club, il voit Hendrix jouer ce morceau, il tombe sous le charme et il l'emmène à Londres. Voilà.
Et en août 69, il joue dans un lieu mythique, Woodstock, une date importante ?
Ah bah oui, évidemment, ça c'est la consécration, c'est l'image ultime de la jeunesse des années 60. Hendrix, en fait, clôture Woodstock. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il jouait, il a joué à la fin du festival et tout le monde partait parce que personne ne savait si... s'il y allait avoir encore un artiste. Il a joué à 9h du matin, dans la boue, la pluie, etc. Les gens partaient, et puis ils sont revenus quand même pour l'écouter. Et là, il a joué l'hymne américain,
Star Spangled Banner.
Voilà.
Et dans sa courte carrière, il n'a sorti que 3 albums studio, oui. 2 en 67, 1 en 68 et un live début 70.
Oui, Are You Experienced, Axis Bold as Love, Electric Ladyland et Band of Gypsies. Voilà, donc ce sont 4 albums qu'il a sortis de son vivant. Mais de façon posthume, on a exploité énormément tout ce qu'il avait enregistré. Il y a plus d'une centaine d'albums qui existent aujourd'hui.
On le retrouve mort au Samarcande Hôtel de Londres le 18 septembre 70 au matin, étouffé par son vomi après avoir pris des barbituriques et de l'alcool, fin tragique. Mais il y a eu des rumeurs que c'était un assassinat, etc. aussi.
Oui, bah, un peu comme pour tout ce qui est trouble, effectivement. Oui. Mais bon, là, je pense que la vérité, c'est qu'il était crevé. Il avait une copine allemande qui s'appelait Monika Danemann, qui avait des barbituriques très puissants allemands. Hendrix, ils s'étaient disputés dans la soirée tous les deux, ils étaient rentrés, lui avait bu de l'alcool, et puis il voulait dormir, il en a pris plus qu'il ne fallait, il s'est étouffé dans son vomi, voilà.
Ça va pour pas plus conclure loin. En quelques secondes, que ouais. reste-t-il de Jimi Hendrix 50 ans après sa mort ?
Voilà, on en parle aujourd'hui, il reste l'image d'un guitariste absolument fabuleux, et moi ce que j'aimerais dire sur Hendrix, c'est que outre une musique plutôt violente à l'époque, c'était quand même un gars qui était plutôt sympathique, très lumineux et rayonnant de gentillesse et de charisme.
Et on va écouter un extrait de The Little Wing. Et alors surtout pour les fans de Hendrix, ce livre, c'est vraiment lourd comme un dictionnaire, mais c'est excellent. C'est le livre de Jean-Michel Guédon, coécrit avec Philippe Margotin. Jimi Hendrix, la totale, les 119 chansons expliquées. Tiens, on écoute, je parle plus, un extrait de The Little Wing. Jimi Hendrix, c'était il y a 50 ans. Merci beaucoup Jean-Michel Guédon.
Merci à vous.